J'adore. Bonjour et bienvenue sur votre émission GSHL pour grande sagesse, humeur légère. Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Vous pouvez nous écouter également sur Internet, voire nous réécouter en podcast. Enfin bref, on peut vous accompagner autant que vous nous accueillez.
Et vous ne pouvez pas nous manquer. Hein.
Voilà.
au fond du couloir à droite.
Exactement. Bon, on a Marc qui est avec nous cette semaine. Salut Marc. Oui,
salut. Bonjour les juniors et les seniors.
Salut Jacqueline.
Bonjour à vous toutes et tous.
On fait un petit coucou à Josiane de loin parce qu'elle est pas dans le studio aujourd'hui.
Oui. Bon,
ça fait deux fois, elle se fait désirer, hein, j'ai l'impression.
Là, ça me fait plus de la place autour de moi.
Et donc c'est Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques.
Oh, la régime.
Bon, cette semaine, on va essayer de vous distraire comme à l'habitude. On est le 16 février. C'était il n'y a pas si longtemps la Saint-Valentin, mais ça c'est déjà derrière. Hein. Allez, une de moins à faire. Mmh. Et puis, Marc, tu avais peut-être une petite phrase pour nous faire réfléchir et être un peu moins bête ce soir.
Bah oui, j'en ai une.
Allez,
j'en ai préparé une pour vous. La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.
Ah, elle est pas mal, hein.
J'aime
on
l'apprend.
Et ça, alors c'est-à-dire qu'on peut rêver, éveiller et se remonter les manches, ça se passe comment?
Oui, et ça marche aussi pour les cauchemars, hein.
Ça marche aussi pour les cauchemars.
Mais à quelle heure?
Ça dépend de l'heure, oui, effectivement.
Et oui.
Non, mais je pense que j'ai choisi cette phrase parce que c'est vrai que je pensais à ce moment-là, à ce qui se passe dans la géopolitique, hein, au niveau du monde, et c'est vrai que face à ce qui se passe autour, l'Europe, par exemple, je pense à l'Europe, elle a besoin de se réveiller autour, ça c'est tout sauf la tranquillité.
Pour le dire autrement, je dirais que les fantasmes des uns viennent en conflit avec les fantasmes des autres.
Oui.
Et c'est vrai que on a besoin de défendre un petit peu notre précaré quand même.
Et en ce lundi 16 février. Où en sommes-nous?
Eh bien, voilà, tout reste à faire, j'ai envie de te dire. Bon, Jacqueline,
oui,
est-ce que tu veux introduire le premier morceau?
Oui, bien sûr. Moi, j'avais envie de légèreté, de printemps, dans ces journées grisâtres. Donc, je vous ai choisi le duo des fleurs de l'opéra Lacmé de Léo Delibes.
Elle le dit beaucoup mieux que moi, hein. C'est pour ça que je lui laisse la parole. Allez, c'est parti.
Thank you.
Qu'est-ce que ça fait du bien.
Merci, Jacqueline. C'est beau. Ouais.
Alors ça, c'est un de mes morceaux préférés, mais tu vois, je n'ai pas la culture, donc j'ai toujours peur de déformer les interprètes, les compositeurs et autres.
Mais bon. Vraiment, je trouve que c'est merveilleux.
C'est tout en douceur. Voilà. C'est vrai que pour aller vers le printemps, c'est sympa, ça.
Ah, c'est sympa. Hein,
bon. Jacqueline, est-ce que tu nous as préparé un petit éphéméride?
Tout à fait.
Bon, nous t'écoutons alors.
Alors, aujourd'hui, nous allons fêter les Jérémy, les Juliana, les Julianne, les Julienne, les Lucille, Porfirio, Porphyre, Samuel, Samy, Tétrade et Pamela.
La Julienne de légumes, ça marche ou pas?
Mais tout ça le même jour.
Tout ça le même jour.
Bah, dis-moi, moi j'ai dit ça, j'ai coché là sur pour nos enfants, j'en ai deux là.
Pas mal.
Jérémy, Samuel.
Bon, bah,
ah,
pas mal.
Bah,
hein.
C'est bien, bravo. Et puis, nous fêtons l'anniversaire de Géraldine Nakache, qui est une actrice scénariste née un 16 février.
De quelle année?
1980.
Une petite jeune.
Une petite jeune. Et voilà. Par contre, ils nous ont quittés un 16 février 1989. Guy Laroche, qui était un couturier français, qui était né en 1921. Et la mort de Monsieur Laennec, inventeur du stéthoscope, qui est décédé un 16 février 1826.
Ça nous rajeunit pas.
Ah ben oui,
ça...
Voilà. Bon.
Alors moi, j'avais noté un autre anniversaire, moi, un tennisman de votre génération, un colérique.
John McEnroe.
Hey, John McEnroe.
Ah, il est né un 16 février.
Le 16 février 59.
Hein. Ah, bah tu vois, je.
Voilà. Il faisait le show lui, hein, sur le terrain.
Oui, oui, oui. C'est bien, ça complète parfaitement.
Alors à l'époque, c'était McEnroe, Yvan Lendl.
Lendl, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait encore? Lecomte? Ou c'est pas la même génération?
Peut-être. Ouais,
non,
c'est un peu ça. Après Lecomte, peut-être. Ouais. Mais dans tous les cas, effectivement, c'était ils ont occupé la scène mondiale à leurs heures.
Oui, ça complètement.
Bon, les amis, je voudrais vous proposer une nouvelle petite idée. Je vous propose à tour de rôle là pendant l'émission de faire une affirmation, enfin deux affirmations. Il y en a une qui est vraie, une autre qui est fausse.
c'est redoutable.
Voilà. Et je vais commencer si vous voulez bien. Alors selon vous. Est-ce que j'ai pu donner 60 kilos? Vous savez que je suis donneur de sang. Est-ce que j'ai pu donner 60 kilos de mon sang, de mes plaquettes, de mon plasma?
Ça fait beaucoup quand même.
Ou bien, est-ce que je vais être grand-père dans les 6 mois à venir?
Ah, bah oui.
Et je vous laisse le temps de la chanson pour y réfléchir.
Vous propose... Il y en a une des deux qui est juste.
Oui, il y en a une des deux qui est juste.
L'autre, elle est fausse.
Et l'autre est fausse.
Fausse complètement.
Voilà.
Moi, je dirais plutôt.
Allez, je vous propose d'écouter Anne Sylvestre avec Les gens qui doutent. C'est parti.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Ça vous a plu ?
Oh, beaucoup.
Anne Sylvestre. Oui, elle a pas eu le destin aussi populaire qu'elle le méritait,
bah,
je pense.
Moi, je pense, hein. Oui.
Elle fait partie de ces artistes, on va dire, discrets.
Oui.
Hein, on peut dire ça ?
Bon, tout à fait.
Bon, vous avez réfléchi à mes affirmations, alors ?
Oui, bah, moi, je pense que je serais plutôt pour la deuxième solution.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Ben, je sais pas, 60 kilos, ça me paraît tellement énorme.
D'accord.
Je sais pas, je me rends pas compte. En fait, 60 kilos, ça fait 60 litres.
60 litres, oui.
Bah, 60 litres, enfin, ça dépend en combien de temps.
Ah, bah, attends, t'es donneur de sang depuis combien de temps ?
Ah, bah, depuis l'âge de 18 ans.
Ah !
Donc, depuis 3 ans.
Oh, merci, il est gentil, alors là, dis donc.
T'en penses quoi, toi, Jean-Jacques ?
Je sais pas,
je suis d'accord avec Jacqueline. Le 60 kilos, faut quand même pas exagérer.
Quand tu donnes ton sang, tu donnes combien?
S'il a sorti un truc comme ça, pourquoi y a pensé? C'est parce qu'il dit, ah oui, quand même, j'ai quand même donné 60 kilos.
Oui. Non, mais tu donnes combien de sang à chaque fois?
Alors, ben, ça dépend. Il y a différentes poches. Mais par exemple, les poches de plaquettes, on est sur du 600 millilitres.
Ah, quand même, hein.
Donc, non, ça fait 60 centilitres. Ça fait donc presque deux tiers d'un litre.
Ah,
ah, bah, et tu fais tous les combien?
Ah bah, ça dépend. Ça dépend.
Moi, je suis pour le sang.
Ah oui, mais ça nous aide pas.
Moi, je suis pour le sang. Il a du sang
dans les veines. Je me demande si oui, je vais pas
réformer
ma réponse.
Mais alors, est-ce que tu vis la nuit?
Non, je ne suis pas un.
Est-ce que tu aimes bien les chauves-souris?
Ou est-ce que tu as des accointances avec Dracula?
Non, du tout. Non, bah, effectivement, la bonne réponse, c'est j'ai donné 60 litres de sang, de plasma et de plaquettes.
C'est super.
J'ai dépassé les 100 dons là en 2025.
Wow.
Et effectivement, quand je me suis intéressé au contenu de la poche, je me suis dit, ah oui, quand même.
Oui. Voilà. 60,
donc
60
tu as raison, Jean-Jacques, je me suis bien dit, ah oui, quand même.
Ben oui, parce que.
Pour y avoir pensé, quand même, c'est.
Oui, tu vois, c'est.
J'aurais bien aimé être d'accord avec toi, mais.
Ben oui. Non, mais j'ai révisé mon jugement parce que je savais pas combien on donnait à chaque fois.
Et moi, c'était aussi, surtout pour moi, l'occasion de remettre en lumière, effectivement, le besoin de sang, de plaquettes.
Ah ben,
et voilà, ça sert non seulement pour des traitements médicamenteux, et il y avait une journée consacrée au cancer récemment, et particulièrement les plaquettes que je donne, alors pour répondre à ta question, entre 5 et alors normalement on peut donner toutes les 4 semaines, mais généralement je donne 5-6 fois par an.
Ah oui, quand
voilà.
Même.
Ouais. Donc,
ah oui, quand même.
Mais moi justement, je boucle avec petit-fils, parce que j'ai un petit-fils donc, qui s'appelle Pablo, enfin deux même.
T'as deux Pablo?
Non, mais Pablo et Gabriel, j'ai deux petits-fils de la même famille qui ont une maladie orpheline et qui ont besoin de transfusions régulièrement, notamment dans la partie jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et après, ils peuvent se faire opérer pour régler le problème. Mais voilà, donc c'est vrai que chapeau. Hein,
mais
à 70 ans, par contre, on n'a plus le droit.
Non, bah, après, c'est aussi pour préserver les donneurs. Hein,
oui. Oui, puis il y a quand même des. Tout le monde ne peut pas donner selon
les médicaments que
non,
tu
prends.
Voilà. Moi, j'ai jamais pu donner parce que j'ai.
Oui, bah,
oui
voilà.
Y a des.
C'est pour
oui,
ça que je considère que quand on a la chance de pouvoir le faire, il faut le faire.
C'est vrai.
Moi, je. j'ai redonné, on va dire, très fréquemment à partir de l'âge de 35 ans. Et en fait, rétrospectivement, je pense que ce qui m'a autant motivé à les donner régulièrement, c'est que j'avais un cousin enfant qui était atteint de leucémie.
Et donc,
je pense qu'il aurait eu les soins qui sont prodigués aujourd'hui, il aurait peut-être mieux vécu.
C'est super important pour
certaines personnes.
T'as un problème, mon petit Jean-Jacques?
Oh, s'il en avait qu'un, ma petite dame.
Non, mais de toute façon, il pouvait pas être, parce qu'il est déjà rien grand-père.
Ah oui.
Non, je ne suis pas grand-père, pas encore.
Mais ça viendra.
Qui sait, voilà. Est-ce que mes enfants feront du remembrement démographique? Ça, l'histoire ne le dit pas encore. La décision leur appartient. Ils vont pas me demander mon avis. Bon, les amis, voilà, ça c'était juste une petite proposition. Est-ce que vous avez réfléchi à vos affirmations?
Moi, j'en ai.
Écoute, la prochaine est pour toi.
J'aime bien.
Jacqueline, faut encore un peu réfléchir, j'ai l'impression.
Oui. Complètement.
Bon, ben voilà, ce sera la prochaine pour Marc. Donc, Jean-Jacques, je pense que tu as des choses à nous faire découvrir avec la télé des années je ne sais quoi.
Oh, super.
Nous t'écoutons religieusement.
Alors bon, je ne sais plus si certains extraits ont déjà fait partie de mes chroniques historiques ou nostalgiques, mais de toute façon, je n'en fais qu'à ma tête. Donc, si bis repetita, eh bien, m'en voulez pas trop. Devinette, blind test, appelez ça comme vous voulez, mais de nouveau, ce nouveau chapitre spécial feuilleton et autres billevesées, petit clin d'œil, de la télévision française, c'est à la demande générale, les centaines de milliers de courriers de nos chers auditeurs et fidèles auditrices, courriers postaux acheminés dans tout le pays, au cachet de cire, violemment brisé par Maître Jonas, huissier de justice, et relayé par SVP. Merci Simone et merci Léon. On va peut-être bien s'amuser dans ce fourre-tout vintage. Ah, moi je trouve qu'ils avaient de la gueule, les génériques de nos feuilletons d'antan. Faut dire qu'avec François de Roubaix, ou Georges Delerue, ou Jacques Loussier, c'était la classe, comme disait Aldo Maccione. Et bien évidemment, tout ça dans un ordre aléatoire. Et aléatoire, c'est pas si loin que ça. On commence cette jazz session avec l'homme du Picardie. Feuilletant montrant la vie pas toujours facile des bateliers sur les canaux du Nord, le personnage principal trimballe sa famille sur sa longue péniche au gré du travail de transport de marchandises qu'on lui propose. L'homme du Picardie, c'est Christian Barbier, qui joua le touchant exécuteur de Madame Mathilde dans le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, avec, entre autres, Lino Ventura et Simone Signoret. Dans ce feuilleton humaniste, des comédiens quand même bien connus, comme Pierre Tornade, la voix historique d'Obélix, Pierre Santini, Lucien Rimbourg et Pierre Arditi. Ah ben oui, quand même. Le générique, sur un rythme de valse, fait penser à une balade, un dimanche matin ensoleillé au bord de l'eau, mais avec un petit fond tristouné. Mais ce n'est que mon impression. Pour celui qui suit, on sent que c'est pas une petite bluette. Hein. La musique est celle d'une bataille avec des épées et des sabres. C'est Thibaut et les croisades. Tout est dit dans le titre. Le rôle est tenu par André Laurence, un acteur canadien qu'on le retrouvera dans quelques séries. Et qu'on retrouve encore dans cette production. Ben, Pierre Arditi.
Encore? Bien sûr.
Eh ouais.
Ah, il est partout.
Thibaut
partout.
Les croisades, ouais. Ah, Yannick Aimé. Qui n'aimait pas Yannick sur son vélo Solex? L'histoire, eh bien, c'est la recherche que Yannick fait. Jeune infirmière entreprend pour retrouver son fiancé, personnage sans vraiment d'épaisseur. Et ça va lui prendre quand même 50 épisodes de 13 minutes. Hein. Et surtout, la question que posaient tous les journaux de télé ou féminins de l'époque, comme Nous Deux, spécialisés dans les romans photos, mettant en scène les vedettes en vogue. Yannick va-t-elle succomber au charme du docteur Laurent et avec sa belle crinière argentée? Jeanine Villa, jeune comédienne, fera quelques apparitions dans des films de second plan et des seconds rôles dans quelques séries, mais arrêtera sa carrière rapidement pour devenir, paraît-il, antiquaire. Et désolé, j'en sais pas plus, je peux même pas vous fournir son numéro de portable. Le générique est joyeux et virevoltant. Oui, pour moi, une musique de générique de feuilleton peut être virevoltante. Et imaginez-vous une jolie jeune femme se baladant, souriante, sur une route d'un paysage de campagne ensoleillé, mais en noir et blanc. Tout ça, quoi. Et à vélo Solox. Hey, Jeannick Aimé, c'était en 1963.
Ça nous rajeunit pas.
Alors oui, il y a d'autres musiques associées à ce fleuron des feuilletons de la rude camaraderie militaire de l'air. Mais j'aime bien celle-ci. Je veux parler bien sûr des Chevaliers du Cygne.
Oh, ça, c'était
adaptation de la célèbre bande dessinée de Charlie et Uderzo. C'est donc pas la mélodie la plus connue chantée avec succès par Johnny Hallyday, c'est les Chevaliers du Cygne. Mais c'est une autre que je partage avec vous. Petits et petites chanceux, qui sera également chanté d'ailleurs par Johnny H. En fait, il y a une autre version de cette chanson, en fait, cette musique, et elle est à la guitare arpège sèche, et c'est quand Michel Tanguy faisait un bisou à sa fiancée. Voilà.
C'est horrible.
Qui se souvient de ce jeune homme professeur de lettres qui, pour sa tranquillité, afin d'écrire un livre, quitte Paris pour s'installer au bord d'un lac, au milieu d'une famille. Et ça ne sera pas facile avec certains et certaines, niveau relationnel. L'acteur principal, c'est Henri Serre, qui avait été Jim dans le film de Truffaut, Jules et Jim avec Jeanne Moreau. Que dire de plus? Quelques comédiens familiers de notre petit écran à l'époque. Non. Il n'y a pas Pierre Arditi. Pascal Roberts, qui fut l'épouse de Pierre Mondy. Olivier Husneau. Les greniers Husneau, c'était quelqu'un de très fort dans le théâtre. Habituel second rôle dans les films français. Notamment, Olivier Husneau, le vieux briscard militaire, père de famille nombreuse dans Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe. Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe, ça sonne bien, hein?
Ah oui.
Là, c'est sur 3 saisons, l'histoire d'un père de famille, jeune veuf, qui s'installe avec ses enfants chez sa sœur. Ça en fait du monde. Et en plus, il y a un grand-père. Une sympathique chronique familiale où l'on trouve un père de famille souvent un peu débordé par les événements. Daniel Sekaldi, habitué de nombreuses comédies légères mais de qualité, avec de très bons réalisateurs.
C'est pas la petite maison dans la prairie.
Non.
Il y a dans la distribution les comédiens et comédiennes habituels. À noter la présence de Patrick Devers sous le nom de Patrick Morin. J'aimais bien ce feuilleton, moi. Pardon, excusez-moi. Montez-moi de la bière et des sandwichs, qu'il disait, dans une de nos séries les plus connues. Pour la télé, ce sera avant Bruno Kremer, le corpulent Jean Richard. Physiquement, plus proche du personnage créé par Simenon. Je ne parlerai pas de tous ceux qui ont tenu le rôle du commissaire Maigret au cinéma, Jean Gabin et tout ça. Et dans toutes les langues. J'aime bien réentendre la ritournelle du générique. Elle est posée comme le commissaire. Pas d'énervement, tout en bonhomie, tout en douceur, jusqu'au dénouement de l'enquête. J'aimais bien ce feuilleton, moi, le samedi soir. C'était gai, cette mère de famille, plus extravertie que son mari, qui était calme, mais acceptant de bonne grâce toutes les petites folies de son épouse, qui, malgré tout, se dirige allègrement vers une émancipation féminine tout à fait bienvenue. Elle, c'est Micheline Prel, grande actrice du cinéma des années 50-60. Lui, c'est Daniel Gélin, acteur de grand talent. Autour d'eux, beaucoup, mais vraiment beaucoup de comédiens et comédiennes qui passent et repassent.
Les chéries.
Les habitués. Il y aura même un Jacques Higelin, d'abord acteur avant d'être chanteur. Bon, c'était bien sûr les Saintes Chéries qu'avait trouvé Jacqueline, évidemment. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a duré quelques minutes. Il y avait d'abord, en prélude générique, cette animation très sommaire où l'on voit une dame avec un grand chapeau et Zibeline se faire enlever par un galopio. Puis après, une équipée en voiture, je dirais plutôt un taco des années 20, ce taco décapoté bute dans une grosse pierre et sous le choc se plie en quatre pour notre plus grand plaisir d'enfant, car suit alors quelques minutes de cinéma muet du début du XXe siècle. Action et images à 100 à l'heure. Scénario minima. Sur un accompagnement très rythmé au piano du compositeur Jean Vienner, nous étions dans des conditions de première séance du cinématographe. C'était Histoire sans parole.
Grand rôle du pipeau, ça. Hein.
Ouais. Tous les samedis soirs, après le journal télévisé, eh oui, on ne disait pas encore JT. Tous les samedis soirs, donc, nous avions ce joli générique très nocturne, très jungle. Et Claude Dargé, incorrigible journaliste, incorrigible car plutôt sans filtre. Hein. Et son commentaire, souvent ironique, avec une voix douce et suave, nous ravissait, sans fioriture. La vie des animaux. Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée du programme. Eh oui, c'était l'écriteau qui nous faisait patienter pendant de longues, trop longues minutes, lors des pannes de réseau ou de caméra ou de papier toilette dans les WC à Cognac G. Comment voulez-vous que je sache, moi? Mais il y avait aussi des dysfonctionnements dans le timing. Alors, si Catherine Langer n'avait pas terminé son maquillage avant de prendre l'antenne, en tant que speakerine, ou si Léon Zitrone n'avait pas fini son plat de pâtes, il fallait meubler. Donc, place au petit train interlude de Maurice Bruno.
Oui. Ah.
Un petit train maquette qui se promène dans des villages bien français, au milieu des prés remplis de magnifiques vaches en pleine santé, dans des jolis quartiers de villes françaises. C'était pas mal fait du tout, les trucages. Et en plus, chaque wagon affichait un élément de rébus que nous devions découvrir avant la fin des quelques minutes de ce très court métrage. La musique avait, je trouve, a posteriori, un petit air du temps de « J'entends siffler le train » que nous avait offert Richard Anthony dans les années 60, chérie. Ce petit train interlune, mythe de rien, c'était chouette. Vous avez trouvé le rébus? Je suis bête. C'est vrai que vous n'ayez pas l'image. Il faudrait remanier à ça. Voyons, voyons. La radio avec l'image, ça serait pas la télé par hasard? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques, merci. C'était bien. Super.
Bon, eh ben oui, effectivement, ça m'a... Moi, je connais pas toutes ces émissions, mais histoire sans parole, effectivement, la musique est.
Ah oui, oui, non.
Est encore
mais...
connue, quoi.
Il y avait des génériques qui étaient vraiment très très chouettes. Hein. Bon. Puis on attendait ça.
On n'avait pas beaucoup de programmes pour les.
Ben non.
On n'avait pas beaucoup de programmes pour les
enfants. Non, mais c'est ce qu'on disait, on n'avait pas de temps de cerveau disponible, on s'instruisait tout simplement.
On faisait autre chose.
Voilà, avec la télé.
Oui, puis il y avait au théâtre ce soir, il y avait tout un tas d'émissions qui étaient culturellement intéressantes, ouais. Si tu veux, parce que ça nous faisait... Enfin, moi, j'ai beaucoup appris par la télévision à l'époque au niveau du théâtre, parce que ça m'a plongée dans la lecture de grands auteurs. Mmh. Ce qui m'a permis d'élargir mes connaissances.
Et alors, j'ai une question rétrospectivement. Les téléfilms de l'époque, on peut les appeler comme ça, les séries à l'époque, les téléfilms ou les séries feuilletons, les feuilletons, on l'appelait ça.
Oui.
Vous pensez qu'ils étaient de grande qualité par rapport à ce qui se produit aujourd'hui ou
bah,
vous voyez
les choses?
C'est
qu'on n'avait pas beaucoup de comparaisons, c'est ouais. Ça le problème, tu vois. Nous à l'époque, on trouvait que c'était vraiment très bien.
De belles histoires.
Il y avait de belles histoires.
Alors on faisait quand même la différence entre le cinéma et la télé.
Oui.
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 Mais... Maintenant, c'est difficile parce que les écrans sont immenses, l'image est HD, 4K, 8K et tout ça. T'as l'image aussi. Bon, alors, évidemment, le cinéma, c'est la salle. Tu vas manger tes pop-corn. Moi, je me mange pas de pop-corn dans la salle, je trouve ça. Mais ouais, mais c'était différent. Mais je veux dire, la valeur du feuilleton. Alors, bien sûr, quand tu regardes maintenant les décors, c'était quand même bon. Et puis c'était en noir et blanc.
Ouais. Bah oui, c'était en noir
c'est
et blanc.
C'est toute une autre époque.
Hein, mais d'un autre côté, c'était quand même,
même
fabuleux de recevoir des images chez soi. Moi, j'étais très habituée à aller au cinéma parce que ma maman travaillait au cinéma Les Variétés. Donc les films, j'en voyais depuis que j'étais toute petite. Mais la première fois que j'ai eu la télévision, donc en novembre 63, avec une seule chaîne en noir et blanc, mais j'étais scotchée d'avoir les actualités, d'avoir des programmes qui arrivaient chez soi. C'est extraordinaire.
Mais tu vois, quand j'y réfléchis, tu parles de cinéma et de télévision. Enfin, on en a parlé. En fait, j'apprécie autant le film à la télé qu'au cinéma.
Ah oui, moi aussi.
C'est-à-dire que, et pourtant, tu l'avais dans une petite lucarne en noir et blanc, oui. Alors que le film en couleur, tu l'as...
Oui, mais non, c'est vraiment une invention merveilleuse, quoi.
Le sport aussi, moi j'ai adoré le,
oh oui.
Les premières d'abord, épreuves sportives.
Le dimanche soir, sport dimanche.
Sport dimanche, oui.
Ah bah, on suivait ça,
moi,
bien sûr.
Le plus vieux souvenir sport, c'est Stade 2, moi.
Oui, ah aussi, oui. Avec Joe Choupin. Enfin, oui. Mais oui, non, mais vraiment, je veux dire que là, c'est encore plus vieux, bien entendu. Ouais. Hein. Ouais. Mais c'est déjà assez ancien, là. Hein. Ouais. Oh là là, dis donc, toi. Tu files un mauvais coton, là.
Oh, là, mon petit gars. Je me suis fait mal au dos.
Bon. Non, mais c'était formidable.
Hop. Bon, donc, les amis, je vous propose qu'on continue, on va dire, notre émission. Mais avant ça, Marc, il va nous faire deux propositions, une vraie, une fausse. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter qui nous ferait apprendre quelque chose sur toi, mais surtout qui nous permettrait de savoir sur quoi tu peux mentir, hein?
Alors, voilà, donc j'ai deux propositions. La première, j'ai participé à l'écriture d'un livre qui a été publié.
Ok.
Et la deuxième,
on peut avoir un titre?
C'est ce que j'allais dire.
Alors le titre, c'était Le risque et la parole.
Ok.
Et la deuxième proposition, j'ai été licencié dans les équipes de jeunes du football club de Nantes. Parce que moi, je suis originaire de Loire-Atlantique.
Ah, on te connaît passionné de foot, mais on te connaît féru aussi, notre philosophe de la bande. C'est pas facile, là. Hein? Bon, on va s'écouter une petite chanson, le temps de disserter entre nous, et puis on revient vers Marc tout de suite. Je vous propose d'écouter une petite chanson, hein, Un jardin d'hiver. Allez,
ah,
c'est parti.
Ah, bien.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans par mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
C'était donc Henri Salvador avec Jardin d'hiver, une petite chanson. Voilà, je me suis dit, ça nous sort un petit peu de la rudesse du climat.
Oui,
voilà,
oui, non,
il fait du vent, il fait humide, il fait un peu pas encore chaud, il fait froid. Enfin, voilà. Bon, Marc, tu nous as fait deux propositions. Nous sommes unanimes autour de la table. Nous pensons que tu bluffes, tu n'as pas été footballeur professionnel.
Oui, j'aurais aimé être footballeur professionnel, surtout FC Nantes en plus, mais bon.
Bon. Et pourtant il a essayé, mais j'ai vu quand il a dit les années que 60, 68.
J'étais pas trop sûr de moi.
t'es Benjamin, là.
Bon. Ah oui, tout petit, oui, on démarrait.
Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'ouvrage que t'as coécrit?
Oui, c'est un ouvrage, en fait, qui a été écrit, par moi, des collègues de travail, parce que j'étais conseiller en prévention des risques professionnels à la Mutualité sociale agricole, donc à Angers. Mais c'est un travail de conseiller qui se faisait dans toute la France auprès du monde agricole depuis les années 72. Hein, c'est quelque chose qui, parce que en agriculture, l'aspect social, sécurité sociale, c'est arrivé un petit peu en retard par rapport au monde industriel. Hein. La sécu chez les agriculteurs, ça démarre dans les années 50-52, hein, les premières lois concernant la retraite, mais alors que c'était déjà 45 pour le régime général, ce qu'on appelle le régime général. Et la prévention des risques qui existait depuis 45 pour le monde industriel n'est arrivée qu'en 72 pour les salariés agricoles.
Vous voyez,
le décalage. Et donc il y a une mise en place nationale déclinée dans chaque département, et donc notamment ces conseillers ou conseillères de prévention. Et ce qui se passe, c'est que on avait une feuille blanche parce que rien ne s'était fait avant.
Oui, d'accord.
Et donc je vous cache pas que développer la culture sécurité dans le monde agricole, c'était pas simple. C'est un peu comme le monde de l'artisanat.
Bah,
et
j'imagine.
C'est des gens qui ont tendance à...
C'est empirique.
C'est empirique. Le risque, on le voit qu'après coup. Hein, ce qui compte, c'est le boulot, la machine, le matériel. Surtout que l'agriculture est arrivée elle s'est développée avec le matériel. Et ce que je disais souvent, c'est que les agriculteurs, ils s'oubliaient, eux, en tant qu'être humain.
Ouais.
Et ce que je disais toujours, la machine, elle réfléchit pas. C'est vous qui devez réfléchir.
Ouais.
Elle a ses automatismes, elle a ses particularités.
C'est vrai que des fois, on a assisté malheureusement à des accidents terrifiants.
Hein. Et c'est très différent. Et l'agriculture a payé un lourd tribut et paye encore un lourd tribut.
J'imagine, oui.
Sur le plan accident type matériel, mais aussi phytosanitaire, enfin sur l'aspect produits chimiques.
Bien sûr.
Parce qu'ils utilisent beaucoup de produits chimiques.
Et alors, moi, j'ai une question sur ce sujet. Post-guerre, on était sur une on va dire, une logique très productiviste. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette même logique, ou est-ce que ça a un peu rééquilibré avec, on va dire, un raisonnement, on va dire, gain-coût
Bah, je pense qu'il y a toujours une exigence de productivité, hein, même qu'on soit dans,
oui,
dans, dans
le système. Oui, productivité et productivisme, c'est pas tout à fait la même chose,
oui,
non plus.
Oui,
il y en a un
vrai
qui est raisonnable et l'autre qui est coûte que coûte.
Oui, mais il y a quand même une exigence, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que une exploitation agricole, c'est une industrie à ciel ouvert, donc c'est faut investir beaucoup d'argent.
Alors, ben ça n'a plus rien à voir qu'avant les années 50.
Il faut investir beaucoup d'argent. Bon, les banques le font le cas échéant, mais après il faut se mettre dans une logique de modèle de production.
Bien sûr.
Et la difficulté, c'est quand même. Enfin, moi, pour l'avoir été, mes parents étaient agriculteurs, j'étais agriculteur, entre guillemets, jusqu'à 25 ans. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur du vivant. Que ce soit au niveau des plantes, au niveau des animaux, on est sur du vivant, qui plus est avec une météo qui est déterminante.
Ah bah, très capricieuse,
parfois. Et donc, il y a des aléas très importants à gérer. Et donc, on est dans... C'est pour ça que le modèle, la tendance... Compte tenu des enjeux environnementaux, des enjeux de santé, etc. Bon, il y a des choses qui sont revues, hein, actuellement, mais globalement, quand même, ça reste une exigence productive importante.
Et
les agriculteurs, les chefs de, enfin, on peut les appeler différents, des cultivateurs, parce que ce qu'ils cultivent, ils élèvent, c'est des éleveurs. Ils veulent vivre de leur métier, quoi. Il faut en vivre.
Ce qui est tout à fait normal,
Sinon, s'il n'y a pas l'économie, de l'exploitation, elle va disparaître. Que ce soit une petite exploitation, une grosse ou une moyenne.
Je trouve que leur rémunération n'est pas en proportion par rapport à leur investissement au niveau du travail.
Et moi j'ai connu quand j'étais petit, hein, quand j'étais jeune, dans les années 50, dans les années 60, les années 60, 50-60, mes 10 premières années, j'y vais dans une ferme de mes parents, de mes grands-parents, autarcique, c'est-à-dire qu'on y avait pas tellement de ventes. Il y avait quelques ventes de volailles, un peu de viande,
ils vivaient dans le
mais ils mangeaient les légumes, ils mangeaient la volaille, ils avaient un petit peu d'argent, mais c'était très autarcique comme fonctionnement. Alors que maintenant, c'est quand un agriculteur il a le même de vie qu'un urbain. Vous allez dans une ferme, vous allez voir une maison avec tout le confort urbain, et c'est normal, c'est ça. Mais tout ça se finance.
Ah bah, complètement.
Et les enfants vont avoir le même mode de vie qu'un urbain. Les mêmes conditions, le même téléphone, le même portable, etc. Donc, et tout ça, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut la faire rentrer.
Bon, et ce livre que tu as écrit, alors c'était en quelle année ça?
Alors là, on a écrit ça dans les années 2000 à peu près.
Et ce serait encore d'actualité aujourd'hui?
Ah bien, complètement. C'est un document qui fait référence, notamment pour nos collègues, parce que dans ce livre, on explique comment petit à petit. D'expérience en expérience et en réflexion, on a pensé la manière d'intervenir auprès des exploitants, mais d'une manière à la fois, il y a notre pratique et on a expliqué notre pratique, ce sur quoi elle repose. On a théorisé notre pratique, enfin, c'est un grand mot, mais ce qu'on a mis en évidence, ce qu'on a trouvé comme chemin. C'est parfaitement opérationnel pour les générations de collègues qui suivent.
Alors, Jean-Jacques, toi qui as vendu des livres, j'ai l'impression que c'est un peu moins la déconne que Gottlieb avec qui t'as dîné quand même. Hein.
J'ai pas d'autographe.
Mais je vous l'amènerai la prochaine fois.
Bon bah dans tous les cas, merci pour cette confidence que tu nous fais. Voilà, on ne savait pas qu'on avait des écrivains autour de cette table. Et bah voilà, on
mais
vous
moi
gâte,
ça
hein,
me surprend
auditeurs.
Pas, tu vois, hein, ça ne me surprend pas.
Mais voilà, c'est la passion aussi pour les mots, les textes.
Tu as raison.
Allez les amis, on va continuer, on va enchaîner vite et je crois qu'on va passer un morceau de musique, on va pas le passer. Jean-Jacques, je pense que l'UFC Que Choisir te réclame, et puis après il y aura l'agenda culturel parce que on va pas pouvoir faire autrement.
À fond la caisse.
Allez, c'est parti.
Ceci est une rubrique UFC Que Choisir, rubrique champêtre s'il en est. Oui, environnement, les moineaux ont presque disparu.
Partis sur les chapeaux de roue. Hein.
Selon les recensements d'associations environnementales, 277 millions de moineaux ont disparu en 40 ans dans toute l'Europe. Les raisons sont multiples, mais la principale concerne la diminution de population d'insectes. Les moineaux ont quasiment disparu de la plupart des grandes villes européennes et ils ne se portent guère mieux en milieu rural. Dans ces deux environnements humains, l'extinction des insectes est la principale cause de ce phénomène. Pourtant, cette espèce d'oiseau est très abondante et adaptable. En ville, s'ajoute la raréfaction des restes alimentaires en raison d'une meilleure gestion des déchets. En campagne, la prolifération des pesticides serait un facteur aggravant, aussi bien par l'élimination des insectes que sur la santé des animaux sauvages en général. Cela dit, les scientifiques ont moins de certitudes sur d'autres causalités possibles, comme les architectures modernes qui ne favorisent pas la nidification ou la maladie aviaire transmise par les moustiques. On observe que la disparition des moineaux s'est stabilisée depuis 10 ans dans plusieurs grandes villes qui ont revégétalisé les sols, supprimé les traitements aux pesticides dans les espaces verts et laissé proliférer des herbes folles. Ainsi, Berlin n'a pas vu diminuer ses populations de moineaux, alors que cette ville est la plus arborée d'Europe et possède encore de nombreuses friches.
Merci Jean-Jacques. Alors moi ça me fait
c'est triste de voir les oiseaux.
Mais les moineaux, ah moi c'est vrai, le moineau je sais faire la différence entre le moineau mâle et le moineau femelle, j'en vois plus.
Mais c'est comme les papillons, j'en vois plus, on en
les
voit
moineaux,
plus.
Non, je vois plein de pinsons de rouge-gorge l'hiver.
Oui,
je les vois souvent l'hiver.
Des piquets-pêches aussi.
Ouais, mais je ne vois pas les moineaux.
Mais moi on habite à Vrier, donc à Vrier c'est quand même assez paysager, hein. C'était la ville parc. Et il y a des oiseaux. D'ailleurs, le LPO a fait, j'ai lu un article dans le journal récemment, disait qu'il y avait certaines communes quand même autour d'Angers qui ont encore pas mal d'oiseaux. Enfin, ils font les repérages, etc. Cela dit, actuellement, la tendance, que sur la ville, il y avait des terrains un petit peu d'une certaine grandeur, arborés, et avec des jardins, etc. Mais et maintenant,
on divise et on reconstruit.
On intensifie. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils mettent les gens? Ils mettent du gravier, de l'ardoise. Il y a plus rien pour les animaux. Donc,
alors, moi, j'apprécie ce que tu dis parce que je me souviens, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le lobby industriel chimique mettait en cause les chats pour la disparition des oiseaux.
Les malins.
Alors, là, tu l'as mis bien clairement. Effectivement, la chaîne alimentaire, c'est les prédateurs, mais c'est aussi, on va dire, la ressource.
Bien sûr.
Et je pense qu'effectivement, on a peut-être 50 fois moins d'insectes qu'avant.
C'est vrai. Hein. Et même les papillons ont beaucoup disparu.
Et tu peux le voir. Oui, les papillons. L'été avant, on avait des pare-brises complètement.
En bas.
Ouais. Là, t'en as vachement moins.
Bah oui.
C'est vrai.
Bon, je vous propose une petite chanson avant de passer à l'agenda. Je vous ai parlé des gens qui doutent, et ben là, je vous parle de ces gens-là. Allez, c'est parti.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit. Tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin... d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle est toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Oui, sentait pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Bon, c'était l'admiration là autour de la table. Hein. Oui. On était tous d'accord de la grande chanson. Et
c'est qui chantait là?
Le grand Jacques. Hein, et j'espère que vous avez aimé ces gens-là. Hein. Mmh. Bon, Josiane n'est pas là. Jacqueline, tu prends la relève un petit peu. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vais vous donner quelques petites expressions idiomatique.
Alors c'est quoi idiomatique?
C'est qui travaille les zygomatiques.
Voilà, forcément.
Comportant le terme oreille. Quand on s'inquiète de quelque chose.
Ne pas faire la sourde oreille.
Non.
Avoir la puce à l'oreille, non.
C'est parfait.
La puce à l'oreille.
La puce à l'oreille. Oh, quand un bruit est exaspérant et assourdissant.
Bah, tu me casses les oreilles.
Oui. Tout à fait.
Ah bon, t'es poli, là.
Alors, quand quelque chose ne suscite aucune attention...
ça rentre d'autres... par une oreille, ça ressort par l'autre.
Parfait.
T'as passé un bon
quand
week-end.
Quand on fait preuve d'une très grande attention...
Une grande attention.
Ah oui, je vois, on est...
Nous, c'est grande. C'est grande
oui, ses oreilles, oui.
Tous yeux... Toute oreille.
Alors là, je ne connaissais pas. Ouais. Tous yeux, toute oreille.
Alors, quand on refuse d'entendre quelque chose.
Je bouche les oreilles.
Fais la sourde oreille.
Fais la sourde oreille. Oui.
Voilà, faire la sourde oreille. Quand une conversation, même privée, peut être entendue.
Silence, les oreilles nous écoutent.
Les murs ont des oreilles.
Les murs... Voilà, excellent. Les murs ont des oreilles.
C'est très soviétique.
Quand on écoute.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
C'est alors, bien, se ça. Dit de quelqu'un qui n'écoute pas quand il a faim.
Qui pas faim n'a pas d'oreille.
Ventre affamé n'a pas d'oreille.
C'est voilà, ça. Bon, ben voilà. Merveilleux.
Vous merci. Avez ça fait longtemps que je l'avais pas entendue celle-ci. Hein, effectivement. Hein. Ouais. Elle date un peu de loin celle-ci. Bon bah ben, merci. Comment on va l'appeler? On va la Jocelyne. Comment? Jacqueline. Bon, Josiane.
C'est très bien. C'est un hommage à notre voilà. petite Josiane bien aimée.
Voilà.
Très bien.
On t'attend, Josiane. On a hâte que tu nous retrouves. Merci, Jacqueline. Est-ce que tu veux nous faire dans la foulée le petit agenda culturel?
Ma foi, oui.
Allez, c'est parti.
Alors, première exposition, explorer la couleur au musée Pincé du 22 février au 20 septembre.
Vous en prendrez plein les oreilles.
Vous en aurez plein les oreilles. Et le tarif est de 4 euros au musée Pincé, rue Le Nepveu. Et c'est gratuit pour tous à partir de 17h jusqu'à 18h.
Et ben voilà, c'est pas mal ça. Donc pour ça, en profiter.
Voilà. Alors, ils sont fous ces Romains. Une exposition de Playmobil au château. Remontez le temps avec vos amis du 7 février au 12 mars 2026. Donc au château, promenade du bout du monde, l'entrée est à 11 euros. Mais n'oubliez pas que les vacances scolaires en zone B sont du 14 février au 2 mars.
Voilà, donc allez-y avec les petits-enfants.
Voilà. Et puis une...
Que tu n'as pas.
Et une dernière exposition, il y a carte blanche à Catherine Roumanoff.
La sœur à Anne.
C'est la sœur de Anne Roumanoff. Elle est fascinée par les papiers découpés de Matisse, donc elle trace son chemin au cœur des étoiles et des tissus. C'est aux anciennes écuries de Trélazé, rue Ferdinand Vest, et l'entrée en est gratuite.
Bon, ça faisait longtemps que tu nous en as pas parlé des anciennes écuries.
J'aime beaucoup les anciennes écuries. Bon. Il y a tous les mois une exposition différente.
Merci bien, Jacqueline. Bon, les amis, c'est déjà l'heure de se quitter.
Oh là là, déjà.
On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de GSHL, sur votre radio préférée, Radio G. Marc, merci beaucoup pour avoir pris le risque de prendre la parole.
Hein, c'est sûr, c'est un risque.
Jacqueline, on se retrouve dans 15 jours.
Avec grand plaisir.
Et merci Jean-Jacques.
Sans faute,
merci
sans faute.
Bonne semaine à tous.
Salut. Il n'est jamais trop tard.
On est pas mal.